RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Dans presque un mois, vous, en tant que citoyens européens, vous pourrez choisir les députés européens qui vous représenteront au Parlement européen. De plus, nous approchons de la limite d'inscription aux listes électorales pour pouvoir participer au vote dans près d'une semaine. Ainsi, il est important de s'interroger à ce sujet. Quelles sont les modalités de ces élections? Quelles sont les conditions pour voter? Pour qui votons-nous? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Claire Gambula, étudiante en troisième année de licence langue étrangère appliquée à la Fac de lettres et sciences humaines de Limoges, qui est actuellement stagiaire à la Maison de l'Europe. Bonjour Claire, merci d'être avec nous.
Bonjour Marie-Lou, merci pour l'accueil.
Pour commencer, nous savons que les élections se déroulent du 6 juin au 9 juin dans toute l'Union européenne. En France, quelles sont les spécificités de cette élection ?
Les élections européennes se déroulent le dimanche 9 juin 2024 en France métropolitaine et la veille pour les départements et régions d'outre-mer. Ces élections se déroulent tous les 5 ans suivant le principe du suffrage universel direct à un tour, d'où l'importance de se mobiliser d'emblée pour faire entendre sa voix.
Mais comment ça se passe concrètement ? Votons-nous pour une personne ou bien une liste ?
Les électeurs voteront pour une liste nationale de 80 candidats présentés par les partis politiques. Le panachage n'est pas autorisé, au risque de rendre votre vote nul. Alors pour expliciter ce terme de panachage, eh bien on pourrait dire que c'est lorsque l'on vote en faveur de candidats de listes différentes. Ainsi, vous allez choisir une liste dont les candidats seront élus selon le principe de représentation proportionnelle. C'est-à-dire que pour que votre liste soit présentée devant le Parlement européen, elle doit recevoir au minimum 5% des suffrages. Plus ce pourcentage obtenu pour cette liste sera élevé, plus le nombre de candidats qui pourront siéger au Parlement sera élevé aussi. Toutes les listes recevant moins de 5% des voix ne pourront pas accéder au Parlement. C'est ce qu'on appelle plus communément le principe de représentation proportionnelle. Je précise que ces listes devront être déposées au ministère de l'Intérieur avant le 17 mai 2024 et seront soumises à la parité homme-femme.
Et je me permets d'ajouter que ce seuil minimal, de 5% est spécifique à la France. Par exemple, il y a d'autres pays où il ne va pas avoir de seuil minimal, et comme l'Allemagne par exemple, où chaque parti, à partir du moment où il y a la proportion, 1% pourrait très bien envoyer quelques députés de la liste choisie au Parlement européen. Dans mon introduction, j'évoquais une date imminente, la limite des inscriptions sur les listes électorales, qui ont lieu début mai, mais est-ce que vous pouvez nous préciser les dates et quelles sont les autres dates à retenir ?
Alors, la date la plus importante, je pense que c'est celle du 1er mai, puisque c'est la date limite des inscriptions sur les listes électorales en mairie. Le 3 mai, ça sera la date limite des inscriptions sur les listes électorales en ligne. Le délai de dépôt des déclarations de candidature se fera à partir du 6 mai. Et le 17 mai, ce sera la date limite de dépôt des listes des partis politiques. La campagne électorale débutera quant à elle le 27 mai. Et le 7 juin, ça sera la clôture de la campagne et le début de l'interdiction de distribution des tracts. Le jour du scrutin pour les départements et régions d'outre-mer se fera le 8 juin. Tandis que pour la France métropolitaine, ça sera du coup le dimanche 9 juin. Et enfin, les résultats seront proclamés le 13 juin.
Et à préciser qu'aussi, les détenus, les personnes en maison d'arrêt, en prison, peuvent voter s'ils sont pas déchus de leurs droits civiques. Et ils vont notamment voter à partir du 6 juin, pour que leur bulletin puisse être attribué aux différentes mairies auxquelles ils sont affiliés le 9 juin, pour que le dépouillement français de toutes les personnes qui auront voté se fasse ce jour-là. Et concrètement, que faut-il remplir comme condition pour pouvoir voter en France aux élections européennes ?
Alors, pour voter, il y aura certaines conditions à remplir. Tout d'abord, il faudra avoir la majorité dans le pays de vote où vous résidez. Par exemple, les Français pourront voter s'ils ont 18 ans, tandis que les Belges, eux, ne pourront voter dès qu'ils ont 16 ans. Cependant, si c'est un ressortissant belge qui réside en France, il ne pourra voter qu'à partir de 18 ans. Il faut également jouir de ses droits civiques et être inscrit sur les listes électorales, comme vous l'avez précisé.
Et à titre d'exemple, admettons je suis roumaine et je vis en France, est-ce que je peux voter aux européennes ?
Oui, bien sûr, mais il faut que vous remplissiez les conditions de vote. Vous pourrez voter soit pour la liste roumaine ou bien pour la liste française. Mais attention, vous devrez vous inscrire sur la liste électorale de la liste choisie. Vous ne pourrez voter que pour une des deux listes et seulement en personne. Vous devrez donc vous rapprocher du consulat, voire de l'ambassade roumaine dans ce cas-là, ou bien voter de façon dématérialisée. Et si l'envie vous prenez de voter à la fois pour les listes françaises et roumaines, sachez que cette action est passible de 15 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement.
Très bien. Et sachant que après, ça dépend de chaque pays, les manières de voter,
tout à fait.
Etc. Mais que se passe-t-il si moi, en tant que Française, je ne peux pas être présente pour aller voter dans mon bureau de vote ?
Eh bien, si vous vous trouvez dans l'impossibilité de voter par absence sur votre lieu de résidence, vous pouvez avoir recours au vote par procuration, qui peut être réalisé soit physiquement ou directement en ligne. Pour la démarche physique, il vous suffit de vous présenter devant un commissariat de police, une gendarmerie ou bien un tribunal judiciaire, muni de votre pièce d'identité. Vous devrez remplir un formulaire indiquant votre numéro national d'électeur ainsi que celui de l'électeur que vous avez désigné, en plus de ses noms, prénoms et dates de naissance. Si vous optez pour la démarche en ligne, vous devrez vous rendre sur la plateforme maprocuration.gouv.fr et vous identifier via le service France Connect en indiquant votre adresse mail, commune de vote, numéro d'électeur, ainsi que le numéro d'électeur, la date de naissance ou l'état civil et la commune de vote de l'électeur que vous aurez désigné.
Merci. Et maintenant que nous en savons davantage sur les différentes démarches pour prendre part aux élections, pour qui votons-nous ?
Alors nous votons pour élire des députés européens ou eurodéputés qui siégeront au Parlement européen pour 5 ans, comme je l'ai dit plus tôt. Il faut savoir qu'ils jouent avant tout un rôle représentatif envers les intérêts des citoyens européens devant le Parlement européen. En outre, les eurodéputés contribuent à l'élaboration et à l'adoption de la législation européenne en proposant des amendements, en débattant des projets de loi et en votant sur les propositions législatives dans le cadre du processus législatif ordinaire de l'Union européenne. Du point de vue budgétaire, les députés européens jouent un rôle crucial puisqu'ils prennent part à l'élaboration du budget de l'Union européenne en analysant les propositions budgétaires tout en proposant des modifications en vue de voter le budget annuel de l'Union européenne. Ils assurent également un contrôle démocratique sur les autres institutions de l'Union européenne, dont la Commission européenne, en questionnant ces institutions, en prenant part à des auditions et enfin en votant pour élire le ou la présidente de la Commission qui leur est proposée par le Conseil européen, soit les chefs d'État, suivant la majorité du Parlement européen. Les eurodéputés sont également des acteurs majeurs de la scène des relations internationales puisqu'ils participent à des délégations parlementaires, prennent part aux négociations avec d'autres pays et organisations internationales, tout en contribuant à façonner la politique étrangère de l'Union européenne.
Très bien, donc maintenant on en sait un peu plus sur les élections européennes, on aura le temps d'en revenir durant d'autres chroniques qui arriveront bientôt, avant le 6 juin puisque ça démarre dans l'Union européenne comme on a pu le dire. Là il reste encore quelques minutes, Claire, donc est-ce qu'on pourrait revenir sur votre stage du coup à la Maison de l'Europe ? Déjà, pourquoi avez-vous choisi la Maison de l'Europe en premier temps, et après je vous demanderai vos missions.
Alors, mon choix s'est porté sur la Maison de l'Europe, tout simplement parce que j'étais très heureuse de savoir qu'il y avait une association qui s'intéressait aux questions européennes et qui permettait aux citoyens de Limoges d'avoir accès à ces informations aussi. Donc, moi, c'est ce qui m'a intéressée en premier. Et en plus, j'aimerais beaucoup faire un master en études européennes et internationales. Donc, pour moi, c'était vraiment la structure tout indiquée pour pouvoir justifier ma demande en master.
Et qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans ce stage ? Est-ce que c'est en rapport avec vos études ? Je sais que souvent, pour les études, on est amené à répondre à une problématique avec des rapports de stage. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de ce point de vue-là ?
Alors, pour ma problématique, j'avais choisi de me poser la question de comment articuler la communication pour sensibiliser sur les élections européennes, puisque vu que c'était un enjeu qui était imminent, j'ai trouvé que c'était hyper important d'en parler.
Et quelles ont été pour l'instant les missions pour répondre à cette problématique-là ?
Alors, en général, je m'occupe de faire de la communication sur les réseaux sociaux. Ça va être des publications qui vont paraître sur les différentes plateformes de la Maison de l'Europe, donc Instagram, Facebook, Twitter. Et donc, c'est pour informer le plus de citoyens possible, puisque aujourd'hui, quasiment tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour informer le plus de gens possible sur comment pouvoir voter aux élections européennes pour que tout le monde puisse cerner la grandeur des enjeux.
Et avoir l'information.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup Claire pour le temps que vous nous avez accordé.
Il n'y a pas de quoi.
Et nous, on va retrouver Claire pour la prochaine chronique sur on parlera du joli mois de l'Europe. Et je vous dis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et quant à moi et à Claire, du coup, on vous dit à la prochaine fois.
À la prochaine fois.
À bientôt.